Tout pour investir. Investir autrement.
On s'occupe de parler, de fêter les 10 ans du crowdfunding dans Tout pour investir, puisque cette méthode de financement date de 2014. Oui, ben ça fait 10 ans, bien sûr, mais je veux dire, on aurait pu être moins dans un âge précis. Néanmoins, le crowdfunding est très souvent associé à l'immobilier. En l'occurrence, Bertrand, vous nous disiez il y a quelques minutes que la tendance était plutôt baissière sur les financements de projets immobiliers. Florence, quelques chiffres pour le comprendre.
Oui, alors comme l'a dit Bertrand, le crowdfunding immobilier a, depuis quelques années, c'était vraiment la locomotive du secteur. Il y a un très fort attrait du crowdfunding immobilier avec des TRI qui sont en moyenne de 10,3% sur des maturités de 22 mois, donc très fort attrait. 2023, c'est la première année où en effet il y a une tendance baissière puisqu'il y a une collecte de la collecte était de 1,1 milliard versus 1,6 milliard en 2022, donc une baisse de la collecte de 28%. En 2023 et du coup le crowdfunding immobilier ne représente plus que 55% des volumes globaux collectés en financement participatif versus on était à 68% en 2022.
Est-ce que c'était une alternative à l'achat immobilier classique? Parce qu'on parle des 10 dernières années, donc d'une période où les taux immo étaient particulièrement bas. Comment ces taux bas ont soutenu l'investissement dans le crowdfunding immobilier, Bertrand?
Ces taux bas ont soutenu, en tout cas ont rendu très attractif le crowdfunding immobilier. Quand l'épargne réglementée, les livrets vous donnaient du 1%, 1,5%, le crowd en comparaison donnait du 9 à 10%. Évidemment, avec l'augmentation de la prime de risque, le crowdfunding s'est réajusté. Donc les taux ont passé le cap des 10% et vont progresser vers 11, 12%. Donc ça a toujours suscité un attrait pour avoir un rendement intéressant. Et puis c'est un outil de diversification par ailleurs par rapport à d'autres formules comme les SCPI, les fonds, l'épargne réglementée. Donc il faut toujours prendre le crowdfunding pour ce qu'il est, c'est-à-dire un instrument de diversification d'une épargne et non pas investir uniquement dans le crowdfunding. La bonne précaution d'usage, c'est d'investir sur plusieurs plateformes et sur plusieurs projets pour s'assurer de se garantir de toutes difficultés qui peuvent être des retards, des projets qui mettent plus de temps à rembourser leurs investisseurs. Donc plus vous diversifiez, plus vous réduisez votre aléa.
Justement, le retard, c'est ce que je lis en pointillé dans un message d'auditeur de Laurent qui m'a écrit ce week-end, qui dit sur le crowdfunding immobilier, il est investi à hauteur de 10 000 euros dans une plateforme et il me parle justement du retard. Il me dit quand attendre un retour ? Est-ce que ces plateformes, by design, elles mettent du temps à répondre par rapport à d'autres domaines de l'investissement ? Est-ce que y a des plateformes qui sont moins rigoureuses que d'autres ? Comment vous analysez ce secteur sans mettre des gens forcément à l'index ?
Je vais commencer, puis Florence me complétera. Je pense que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise plateforme. Elles ont toutes le même socle réglementaire. Après, il y a des projets qui peuvent être plus compliqués que d'autres parce que les niveaux de pré-commercialisation étaient plus faibles, parce que les garanties étaient moins importantes. Et après, il y a l'aléa de l'immobilier, notamment de la promotion immobilière. Pour livrer la construction d'un immeuble, puis ensuite pour le commercialiser, c'est pas une science exacte. Quand vous êtes sur un emprunt obligataire de 24 mois, il se peut qu'au bout de 24 mois, vous n'ayez pas complètement terminé. Donc, votre remboursement de la masse obligataire va différer. Mais néanmoins, c'est pas pour ça qu'elle ne va pas se faire, mais elle risque de se faire avec une prorogation qui amènera peut-être à une maturité finale de 36 mois. Pendant ce temps, les intérêts sont versés. L'objectif, c'est de tomber sur des projets qui n'aillent pas en défaut. Pour l'instant, les taux de défaut restent encore assez faibles et c'est ça qu'il faudra surveiller en 2024.
Florence de Maupoux, j'ai une question du même ordre de Franck qui nous suit régulièrement sur notre antenne. Il a investi des petites sommes sur deux plateformes. Une des deux plateformes a disparu corps et biens. Voilà. Est-ce que, comme dans tout domaine, voilà, il y a aussi ces plateformes, c'est aussi des startups, c'est aussi des boîtes qui ont
vu le jour
et qui ont traversé le tunnel de la mort. Comment on dit aux investisseurs là, qui peut-être, même si c'est des petites sommes, ont perdu de l'argent ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter autant?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si la plateforme fait défaut, comme l'a mentionné Bertrand,
le socle réglementaire doit leur apporter.
Voilà, c'est un agrément. Hein, c'est pas un statut anodin. C'est un vrai agrément, et elles doivent mettre en place une gestion extinctive de leur activité, un plan de continuité de l'activité. Donc, elles ont des règles à mettre en place. Et je ne sais pas de quelle plateforme il s'agit, mais a priori, soit elle a mis en place un plan de continuité d'activité, et il y a un prestataire qui a été désigné pour continuer à récupérer, enfin, à faire du recouvrement sur les projets qui sont en cours. et à faire en sorte que les projets en cours se terminent dans les meilleures conditions possibles, soit la plateforme a été rachetée par une autre plateforme, et c'est ce qu'on a vu ces dernières années la plupart du temps. Il n'y a pas eu de casse de plateforme parce que les plateformes ont été rachetées par d'autres acteurs.
Et rappelons aussi d'un mot, c'est que l'argent ne transite pas par les plateformes, ça va du porteur de projet à l'investisseur et vice-versa, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement. Donc ce n'est pas la plateforme qui capte les fonds.
Oui, voilà, tout à fait.
Le fonctionnement de ces plateformes avec, vous l'avez dit, un même socle réglementaire.
Je voulais juste pour compléter ce que disait Bertrand aussi, c'est vrai que pour les investisseurs qui ont investi dans des projets, alors surtout en 2020-2021 et qui accusent des retards, c'est vrai que c'est très compliqué aussi pour la plateforme de donner toute l'information parce qu'il y a des procédures qui sont confidentielles, donc il y a des projets qui sont en retard et comme le disait Bertrand, 2024 on verra un peu, on va atterrir sur certains projets et voir si ces prorogations on a pu sortir par le haut et récupérer les sommes investies ou s'ils passent en perte définitive.
Voilà ce qu'on pouvait vous apporter comme éclairage, cher Franck, bien sûr. Un mot pour finir ce portrait du crowdfunding en 2024, 10 ans après la naissance de ce domaine d'investissement, on va le qualifier de cette manière-là, ce sont les énergies renouvelables. Vous nous disiez, Bertrand, que c'était la grande tendance de l'année passée, de 2023. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On finance plus de projets, les projets lèvent plus d'argent. Oui. Les deux.
Il y a une augmentation et du nombre de projets et du volume de collecte. Alors il y a un socle réglementaire très très puissant derrière. Il y a la loi énergie-climat qui oblige les acteurs de la filière de l'énergie de diversifier leur mode de production et donc de passer vers de l'énergie renouvelable. Donc c'est le photovoltaïque, l'éolien, le biogaz ou encore l'hydroélectrique. Et les plateformes s'insèrent dans cette démarche-là. Il y a un écosystème très puissant de plateformes en France comme l'Endosphère, l'Endopolis, l'UMO, Enerfip ou encore WeSeed qui portent des projets et qui permettent à des investisseurs particuliers soucieux de cette transition écologique d'y participer et d'en bénéficier aussi de l'intérêt économique. Donc en termes de montant collecté, c'est 368 millions sur l'année 2023, ce qui est assez, assez considérable et c'est en progression. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là, compte tenu de l'appétence des Français pour cette thématique-là et des rendements qui sont eux-mêmes en progression avec de belles qualités de signature parce que les porteurs de projets, pour le coup, c'est pas des petits promoteurs immobiliers ou des petits marchands de biens, c'est souvent des acteurs de l'énergie qui peuvent être d'une certaine taille, donc qui offrent en plus des garanties financières et de la prévisibilité sur leur business plan très important. Donc pour les investisseurs, c'est en plus, je pense, une bonne diversification au sein du crowdfunding.
On parle de financement participatif en bon français. On ne parle pas beaucoup d'exit depuis tout à l'heure. Quel est, notamment peut-être à l'intérieur de ces projets d'énergie renouvelable, le pourcentage d'entreprises qui remboursent? Est-ce qu'il y a des secteurs où on rembourse déjà mieux? Parce que 10 ans pour un horizon d'investissement, ce n'est pas monstrueux pour peut-être les projets qui ont levé il y a une dizaine d'années. Est-ce que, aujourd'hui, on observe quand même des entreprises qui deviennent rentables et qui finalement remboursent les personnes qui ont mis des billes? Bertrand ou Florence, je ne sais pas.
S'il y a une sortie des investissements, oui, il y en a. Alors, je n'ai plus le chiffre en tête, Bertrand, je ne sais pas si... si tu as
sur les projets immobiliers
Non, pas sur les, enfin sur l'investissement en capital du coup.
Ah oui, oui, sur l'investissement en capital, oui, il y a un certain nombre de start-up qui remboursent leurs investisseurs et qui permettent du coup à la communauté d'investisseurs de dégager une plus-value. Après, on n'a pas de statistiques précises.
Pourquoi c'est compliqué d'avoir ces statistiques?
Parce que c'est sur une échelle de temps beaucoup plus longue et parfois il faut 5 à 10 années pour obtenir. Une vision globale, donc on n'a pas consolidé la vision du nombre de start-up qui ont permis un remboursement mais néanmoins il y a des dynamiques très intéressantes sur un certain nombre d'entre elles, avec des plateformes également très dynamiques et des nouveaux acteurs cette année comme Crowdcube, comme Blast, comme Tudigo, WeSeed, qui sont très actives et qui proposent des opportunités en capital particulièrement attractives.
Impossible de parler de financement participatif et donc d'épargnants et d'investisseurs sans parler du travail de Paul Midi qu'on essaye de documenter autant que possible dans cette émission. Peut-être un mot pour finir, Florence. Je rappelle que ce député a beaucoup travaillé pour rapprocher, je dirais, les épargnants, les épargnantes des entreprises. Justement, vous êtes directrice générale de Financement Participatif France. Dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le crowdfunding?
Oh, on se... se projette très loin là. Non, c'est sûr que les dispositifs d'incitation fiscale tels que le dispositif mis en place par Paul Midi qui permettent de booster l'investissement des particuliers dans des jeunes entreprises innovantes de croissance ou de rupture avec des fiscalisations qui vont de 30 à 50% pour le particulier, c'est des dispositifs qui sont de nature à booster considérablement l'investissement des particuliers dans l'économie réelle. Donc c'est des choses évidemment que nous, au titre de financement participatif France, on impulse au maximum. Et là, dans les 10 prochaines années, si des dispositifs comme ça se maintiennent, on peut imaginer que l'investissement qui a déjà fait, l'investissement en capital qui a déjà fait plus 80% entre 2022 et 2023, continue largement sa progression. Et ça peut jouer aussi, ce qui est, je pense, un gros enjeu, à l'éducation financière, puisqu'on est en France assez peu éduqué à l'investissement, assez frileux. Et donc, ce type de dispositif peut permettre de prendre des risques mesurés, parce qu'il y a quand même une incitation fiscale qui n'est pas inintéressante, pour justement aller financer l'économie réelle.
Bertrand Desportes, le mot de la fin, le chiffre de la fin peut-être pour finir.
Non, le mot de la fin, pour rebondir sur ce que dit Florence, il y a évidemment le dispositif Paul Midi qui va inciter les investisseurs particuliers à aller sur le crowdfunding en equity. Puis par ailleurs, il faut rappeler que le crowdfunding, c'est l'accessibilité pour 100 €. Vous pouvez rentrer sur des projets non cotés et il y a que ça qui permet de le faire finalement, parce que les fonds communs de placement à risque, les tickets sont beaucoup plus élevés. Oui. Et quand vous êtes business angel, on parle de tickets bien supérieurs. Donc le crowdfunding, oui, c'est quand même une belle initiation au capital privé des entreprises.
Voilà, les 10 ans du financement participatif. Merci beaucoup Florence de Maupou, directrice générale de financement participatif France, et merci Bertrand Desportes, associé chez Mazars, d'avoir fait ce portrait, cet anniversaire du financement participatif dans Tout pour investir. C'est la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous pour vos messages, notamment nombreux concernant Total Energy qui pourrait quitter la côte parisienne pour Wall Street et qu'est-ce que ça signifierait pour notre PEA. Nous vous répondrons en détail demain avec l'équipe du mardi, Christian Fontaine du Revenu et Jean-Louis Delheureux de BFM Business. Nous serons là demain dès 10h, bien sûr. On parlera d'ailleurs du meilleur placement d'attente quand on a 100 000 €. Voilà le programme de demain. On sera également avec un exceptionnel violon de Jean-Baptiste Huillaume pour les amateurs, l'un des plus grands luthiers français du 19e siècle. On parle d'un violon à 160 000 €. Voilà, ce sera au programme de demain.